Je ferai mon propre site. Peut-être que ça marchera, peut-être que non. Mais ce sera à moi.
Toute passion peut se monétiser sur le web. Ça, c'est la réalité économique dans laquelle on est actuellement et c'est plutôt cool.
Je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie, ce truc énorme, magnifique, passionnant que vous avez créé. N'oubliez pas qui a fait ça.
Je ne suis pas venu pour faire des sandwichs, je suis venu pour faire des affaires.
Fais-moi donner des cours de PDG.
Là, le fait d'avoir vraiment un programme en ligne, enfin quelque chose de passif, quelque chose qu'on a créé toute pièce, là, j'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et plus en tant que freelance. Et ça, c'est satisfaisant.
Je pourrais même gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre boulot.
Boum ! Dollar, dollar, bill, yeah !
Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode un petit peu différent de ce qu'on a eu l'habitude de faire. Vous le savez, depuis le début de l'année, je vous avais dit que j'avais envie d'un petit peu, voilà, changer, en tout cas faire évoluer la ligne éditoriale, parler de ce qui se passe sur le web et pas que des entrepreneurs classiques, entre guillemets, comme j'ai l'habitude d'interviewer, mais également parler d'influence, parler de marketing d'influence, vous parler de certaines choses qui se passent sur le web parce que ben, c'est toujours au final intéressant de savoir ce qui s'y passe. Et clairement, je ne pouvais pas ne pas vous parler du cas Cara Ferragni qui, moi, m'a occupé pendant toutes les vacances de Noël et qui continue de m'occuper parce que c'est vraiment une histoire avec énormément de rebondissements. On n'a pas fini d'en parler, mais je voulais qu'on en parle aujourd'hui. On va donc parler de l'influenceuse Cara Ferragni où clairement son empire est un petit peu en train de s'écrouler et on va voir tout cela. Alors au niveau du sommaire de l'émission, je vais d'abord vous faire un rapide débriefing sur la carrière et la vie de Cara Ferragni. Comme ça, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez un petit peu plus situer le personnage. On va ensuite parler du scandale qui a éclaté en décembre 2023. Et puis on verra un petit peu ce qu'on peut analyser. Pourquoi est-ce que ce scandale a été si énorme en Italie? Est-ce que c'est la fin de sa carrière? Quelle va être la suite pour elle? Et quelles sont les leçons qu'on peut également nous en tirer en tant qu'acteur du web également, même si nous n'avons pas la popularité de Cara Ferragni, ben je pars du principe qu'il y a toujours des choses qu'on peut apprendre, donc on va voir tout cela. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point important, absolument tous les faits que je vais vous expliquer sont des faits réels, c'est ce qui est passé dans la presse mais qui a été vérifié, hein, c'est pas du gossip. Et par contre, quand je vous donnerai mon avis, ben, je vous le dirai clairement, voilà, ça c'est mon avis, ça c'est mon analyse personnelle et les faits qui se sont passés, vu qu'on va parler quand même d'une affaire judiciaire, il y a des choses importantes et c'est important de relater les faits tels qu'ils ont été décrits, donc ça ce sera bien dit, clairement. Mais avant de passer à la partie scandale que vous attendez tous, on va faire un petit point sur Cara Ferragni si vous ne la connaissez pas. Alors, si vous ne connaissez pas encore Cara Ferragni, je vais vous la présenter. Cara, énorme phénomène sur le web et depuis des années, c'est vraiment la blogueuse slash créatrice de contenu slash désormais influenceuse numéro 1 dans le monde de la mode. Elle a créé un réel empire. Alors, pour un petit peu plus la connaître, donc Cara Ferragni est née à Cremone, c'est pas très loin de Milan en Italie, le 7 mai 1987. Elle fêtera donc ses 37 ans dans quelques semaines. Et en 2009, elle a créé son blog mode qui s'appelle The Blonde Salad et c'est devenu très très vite un énorme phénomène. Donc pour situer en 2009, Instagram n'existe pas encore et on est réellement au moment où les blogs explosent et principalement les blogs mode. Donc pour le coup, elle a vraiment commencé, elle a fait partie des premières, elle s'est vraiment lancée au bon moment et elle a eu tout de suite un succès incroyable. Qu'est-ce qui a fait son succès? C'est tout d'abord ses looks, forcément une blogueuse mode, fallait quand même qu'elle s'habille bien, qu'elle ait un chouette style. Donc ça, on ne peut pas lui retirer. Et également, énormément de photos de voyage. Elle voyageait beaucoup avec son petit copain de l'époque qui l'a aidé vraiment à lancer son blog, qui l'aidait avec les photos, etc., etc. Elle a été super régulière sur son blog. Hein. Au fur et à mesure des années, hein, on le voit, la régularité, ça reste quand même un point hyper important. Mais donc voilà, Cara Ferragni est devenue un énorme phénomène. Si bien que déjà en 2011, elle a lancé sa propre ligne de chaussures, sa propre marque. marque qui porte son nom, Cara Ferragni. C'est une marque de vêtements qui existe encore aujourd'hui, à part que maintenant, ils sont vraiment sur toutes les catégories de produits prêt-à-porter, maillots de bain, etc., etc., etc. Pour vous montrer un petit peu le phénomène que c'était à l'époque et qu'elle est devenue, en 2011, elle a été la première influenceuse à marcher sur le tapis rouge lors du festival de Cannes. Alors ça me fait beaucoup rire parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'influenceuses qui sont invitées chaque année à Cannes et ça fait un petit peu jaser. Ben, c'est absolument pas nouveau. En 2011, Ciara était déjà là. Elle a également été une des premières influenceuses à être invitée à une Fashion Week. Les Fashion Week, pareil, maintenant, il y a plein d'influenceuses, etc. À l'époque, c'était que des célébrités et Ciara a fait partie des premières à être assise au premier rang lors de défilés. En fait, elle a été la première souvent pour de nombreuses choses et elle a vraiment ouvert la voie à toutes les créatrices de contenu et influenceuses. En 2013, elle a sorti son premier livre qui s'appelle Te Blanc de Salade, qui est disponible encore, qui existe uniquement en italien. Moi, je me souviens, je l'avais acheté à l'époque. Et c'était en fait des conseils en mode, beaucoup de photos, etc. En 2014, son blog Te Blanc de Salade dépasse le 1 million d'abonnés parce que oui, à l'époque, on parlait encore d'abonnés sur les blogs, mais donc vraiment quelque chose d'assez énorme. On est en 2014, c'était il y a 10 ans, rendez-vous compte. À ce moment-là, on évalue que son business lui rapporte cette année-là 8 millions de dollars, notamment grâce à ses collaborations avec des marques, mais aussi avec sa marque de chaussures. Et son business a continué à se développer. Elle a toujours eu un mix de création de ses propres produits, comme avec sa marque, mais également de collaboration avec des marques. Elle a également été très vite le visage de certaines marques pour des publicités. Je pense notamment à la marque de shampoing Pantene. Et son business a tellement explosé, tellement vite, c'est tellement vite devenu un phénomène qu'en 2015, elle a été invitée à Harvard parce qu'elle a fait l'objet d'une étude de cas. On a étudié son blog, on a étudié sa marque, on a étudié tout le business model autour de Cara Ferragni. Et je dois dire, quand j'ai préparé cet épisode et que j'ai fait un petit tour dans les dates, j'étais super étonnée parce que je me souviens très très bien de ce moment où elle était invitée à Harvard et jamais dans ma tête, ça s'était passé il y a déjà 9 ans. Donc c'est pour dire, il y a 9 ans déjà, le phénomène qu'elle était. Toujours en 2015, après Harvard, très bonne année 2015 pour Cara, elle a été la première influenceuse à faire la couverture du magazine Vogue. C'était pour l'édition espagnole. Donc encore une fois, première, toujours la première influenceuse à faire certaines choses qui étaient avant réservées à des célébrités ou à des mannequins. Le 31 juillet 2017, elle atteint le cap des 10 millions de followers sur Instagram. Aujourd'hui, elle est presque à 30. Elle a été nommée plusieurs fois dans des magazines, notamment dans Forbes. Elle a fait le fameux classement les 30 en dessous des 30. Elle a également été citée plusieurs fois comme étant une des personnes les plus influentes dans le milieu de la mode. Donc clairement, Ciara, c'est quelqu'un qui s'est fait un nom dans le monde de la mode. C'est pas juste une influenceuse, c'est pas juste une créatrice de contenu, c'est aussi une femme d'affaires hyper, hyper accomplie. Alors, je pourrais vous parler, je crois, pendant tout un épisode de sa carrière. Ici, je vous donne vraiment les points les plus importants pour que vraiment on comprenne le phénomène qu'elle est. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Sa marque Cara Ferragni a continué à grandir. Il y a même maintenant une partie beauté, une partie bijoux. On a également Te Blonde Salade, son fameux blog, ben, n'est plus du tout son blog personnel. Désormais, c'est sur Instagram qu'elle poste quotidiennement, plusieurs fois par jour, ses looks, ses moments de vie, etc. Mais Te Blonde Salade est devenu en fait maintenant un magazine en ligne lifestyle, un petit peu comme un magazine de mode, etc., etc. Et très intelligent, elle a également eu sa propre agence d'influence parce que très vite, elle s'est rendue compte en fait qu'elle ne pouvait pas collaborer avec certaines marques parce que son profil tout simplement ne matchait pas avec les marques. Et donc, pour entre guillemets ne pas perdre ce business, elle a décidé de créer sa propre agence d'influence dans laquelle il y a différents influenceurs, notamment ses sœurs et sa maman. Mais donc, voilà, elle a quand même énormément grandi au niveau business. Ce n'est plus juste la blogueuse qui poste ses looks, c'est une vraie femme d'affaires. D'ailleurs, on a évalué en 2021 que le chiffre d'affaires de ces différentes sociétés en tout c'était 30 millions d'euros par an, donc quand même sacré business. À côté de cela, si ça vous intéresse d'en savoir plus, en 2019 un documentaire sur sa vie est sorti sur Amazon Prime, il s'appelle Cara Ferragni Unposted, documentaire assez intéressant, hein, je vous le conseille si vous voulez voir un petit peu plus le phénomène, comprendre comment ça s'est passé, comment est-ce qu'elle a développé tout ça, comment est-ce qu'elle a été visionnaire dans le milieu du web. Et il faut savoir que ce documentaire a été présenté à la Mostra de Venise quand il est sorti en 2019. Et la Mostra de Venise, c'est un petit peu comme le Festival de Cannes. Oui, il y a des gros films, mais il y a également des films d'auteurs. Et pour que le documentaire d'une influenceuse soit diffusé en ouverture, c'était un truc vraiment énorme. Alors certes, elle est italienne, le festival se passe en Italie, donc il y a un petit point d'attache. Mais encore une fois, ça montre le phénomène qu'elle est et également le respect qu'elle inspire. Parce qu'en général, quand on parle comme ça de blogueuses, etc., souvent, on a tendance un petit peu à les reléguer et à ne les pas prendre beaucoup au sérieux. Pour le coup, Cara Ferragni, en Italie et dans le reste du monde, c'est tout l'inverse. Et s'il y a bien quelque chose qui peut prouver de son professionnalisme et également du respect qu'elle inspire, en avril 2021, elle est rentrée au conseil d'administration de chez Todd's. D'ailleurs, elle est actionnaire minoritaire, c'est ce qui fait qu'elle est rentrée dans le board. Et au moment où ça a été annoncé, les actions de la marque Todd's ont fait un petit bond en avant parce qu'en fait, la nouvelle a été super bien accueillie. Ils se sont dit, ok, s'il y a Cara Ferragni au board, mais d'office, la marque va d'office grandir tellement que son avis, ses conseils, etc. vont avoir un impact. Dernière collaboration notable en mai 2021 et en janvier 2023 avec la marque Nespresso. Cara Ferragni a créé deux fois avec Nespresso une collection complète. Donc, il y avait la machine, les capsules, les mugs, les verres, etc., etc. Toujours communiqué en grande pompe par Nespresso. Il y a même eu, en mai 2021, il y a même eu un pop-up store à Milan où on pouvait spécialement tester le café Cara Ferragni, où il y avait plein de choses, de goodies, etc., etc. Donc, encore une fois, pour remettre dans le contexte, Nespresso, bah, vous pensez Nespresso, on pense tous à George Clooney, c'est l'image de la marque. Voilà, donc plutôt des choses assez prestigieuses, des célébrités reconnues par leur talent. Et on le voit, Cara Ferragni fait vraiment partie de cette élite, on peut le dire. Alors du côté de sa vie privée, hein, on a l'impression que tout roule au niveau professionnel. Mais écoutez, niveau vie privée également, tout va bien. Enfin, en tout cas, tout allait bien jusqu'en décembre 2023. En 2016, elle officialise sa relation avec Fedez. Alors Fedez, ce nom ne vous dit peut-être rien. Sachez qu'en Italie, c'est une super, super, super star. C'est un chanteur slash rappeur. On pourrait un petit peu le comparer, dire que c'est le Matt Pokora italien, globalement, on pourrait dire ça. Donc énorme star. Inutile de dire en Italie que quand ces deux-là ont officialisé leur relation, c'est devenu le couple numéro un, le power couple. Et en plus, ils ont toujours énormément mis en avant leur vie privée, hein. Ils sont pas dans la discrétion pour le coup. Il l'a demandé en mariage le jour de ses 30 ans, lors d'un de ses concerts. Ça avait fait le tour du monde, cette demande en mariage. Et ils se sont mariés le 1er septembre 2018 en Sicile. Et pour la petite anecdote, qui n'est pas vraiment une anecdote, Cara Ferragni était habillée ce jour-là en Dior. Elle avait une magnifique robe de mariée. Et il faut savoir qu'on est la même année que le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Et Meghan Markle était également habillée en Dior quelques mois avant, hein, c'était en mai 2018, le mariage de Harry et Meghan. Et il faut savoir qu'en termes d'impact publicitaire et de visibilité, la robe qu'a portée Ciara et le mariage de Cara et Fedez a amené plus de visibilité à Dior que le mariage d'Harry et Meghan. Voilà, ça c'est pour moi la preuve ultime de l'impact que Cara Ferragni a et de sa puissance commerciale et la puissance commerciale également de ce couple. Ils ont accueilli deux enfants, Léon en 2018 et Victoria en 2021. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce couple, ben écoutez, il y a une série également télé-réalité qui est sortie chez eux qui s'appelle donc The Ferragnes. C'est leur petit surnom, hein, Ferragni, Fedez. Fidèles, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a eu 2 saisons sur Amazon Prime. Moi, je dois dire, j'étais un petit peu déçue. C'est vraiment de la télé-réalité à la Kardashian. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Pour le coup, ils sont moins rigolos, moins extrêmes que les Kardashians. Donc, je vais pas dire que j'ai trouvé ça ennuyeux à regarder, mais presque. Mais bon, voilà, c'est sur Amazon Prime si vous voulez aller voir. Mais je vous conseille plutôt le documentaire. Alors, il faut savoir qu'ils sont énormément appréciés par le grand public et encore plus en Italie. En Italie, on les a toujours surnommés la famille royale italienne et c'est vrai qu'ils ont une telle popularité qu'on pourrait presque les comparer à des William et Kate au final. Je me souviens quand ils se sont mariés, mais il y avait limite des émeutes en Sicile parce que les gens voulaient absolument les apercevoir. Bref, énorme phénomène. Et d'ailleurs, pendant la pandémie du Covid en 2020, ils ont levé 3 millions de dollars en 24 heures pour un hôpital milanais. Donc on le voit, énorme impact, et d'ailleurs ils ont par la suite été décorés par la ville de Milan en remerciement de tout ce qu'ils avaient fait pendant la pandémie. Donc on le voit, énorme couple, hyper puissant. Dernière chose qu'on pourrait dire de Chiara Ferragni, en février 2023, elle a co-présenté le festival de Sanremo. Donc encore une fois, peut-être quelque chose qui ne vous dit pas grand chose ici dans le monde francophone, Sanremo en Italie, c'est un énorme festival. En général, le gagnant de Sanremo va à l'Eurovision. Et si, comme moi, vous êtes fan de Maneskin qui s'est fait connaître grâce à l'Eurovision, ben sachez que juste avant l'Eurovision, ils avaient gagné le festival de Sanremo en Italie. C'est comme ça qu'ils se sont fait déjà bien, bien, bien connaître sur la scène italienne. Et donc, elle a co-présenté ce festival qui est vraiment un énorme événement en Italie, le week-end de Sanremo. Absolument tout le monde regarde Sanremo en Italie. Donc bref, Chiara Ferragni, on peut pas vraiment la comparer à qui que ce soit. Elle a vraiment créé son propre empire. Au final, en vous expliquant tout ça, moi j'ai presque envie de la comparer à Taylor Swift actuellement, qui est absolument partout, qui réussit tout, on se demande jusqu'où elle va aller. Eh ben, Chiara Ferragni, c'est exactement ça dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'influence. Alors, tout allait parfaitement bien dans la vie de Chiara Ferragni jusqu'au 15 décembre 2023. Que s'est-il passé le 15 décembre 2023? Ça y est, on passe au scandale. Alors, l'autorité italienne de la concurrence a annoncé donc en mi-décembre 2023 que Chiara Ferragni et ses différentes sociétés devaient payer une amende de 1,075 million d'euros suite à une enquête sur des pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Bam, ça y est, tout de suite, ça rigole pas, 1 million d'euros d'amende pour pratique déloyale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va remettre un petit peu dans le contexte. Comme je vous l'ai dit, Chiara Ferragni, elle faisait toujours énormément de collaborations avec des marques, énormément d'opérations commerciales, et elle a fait également pas mal d'opérations de charité. Et en décembre 2022, ça n'a pas manqué, elle avait fait une grosse opération avec l'entreprise Baloco, qui est une entreprise qui vend des pâtisseries, des biscuits, etc. C'est un petit peu comme lui, on pourrait dire ça. Et en fait, on pouvait acheter un pandoro à son effigie. Le pandoro, c'est un gâteau italien qu'on mange à Noël, un petit peu comme le panettone. Il y a une petite différence entre les deux, je vous avoue que j'ai pas été fouillée plus loin. Et donc, globalement, on pouvait acheter ce fameux pandoro qui était au branding de Chiara Ferragni. Donc la boîte en carton dans lequel était le gâteau était dans les tons roses avec le logo de Chiara Ferragni. Et je me souviens très bien, il y avait du sucre en poudre par-dessus avec le logo de Chiara Ferragni. Donc globalement, on n'était pas sur une énorme différence au niveau du gâteau, c'était juste le packaging qui était différent. Et ce pandoro, pour le coup, était vendu 9 euros au lieu de 4 euros pour le classique sans la marque Chiara Ferragni. Et il était indiqué qu'en achetant ce produit, on allait contribuer à une œuvre de charité et plus principalement pour l'hôpital Regina Margherita de Turin, qui est un hôpital pour enfants, donc à Turin, comme je l'ai dit. Et donc, cette opération commerciale a énormément fonctionné. Pourquoi? Ben parce que déjà, les Italiens raffolent de ce type de gâteaux, de pâtisseries en période de Noël. Et puis, comme c'était Chiara Ferragni et que c'était pour une œuvre de charité, il y a eu énormément de ventes. Et pour le coup, moi, je me souviens très bien de cette opération commerciale parce que c'est vrai que Chiara Ferragni avait quand même pas mal communiqué dessus. Elle montrait les stories dans les magasins, elle repostait les stories des gens qui allaient l'acheter à table, etc. Donc quand même, grosse opération commerciale. Et clairement, il n'a jamais été indiqué sur le produit qu'un pourcentage des ventes serait reversé à l'hôpital. Il était marqué « En achetant ce produit, vous allez contribuer à une œuvre de charité, vous allez nous aider à contribuer à une œuvre de charité ». Globalement, on n'est pas en train de dire « voilà, il y a un pourcentage ». Cependant, et c'est pour ça que l'autorité italienne de la concurrence s'est attaquée à Chiara Ferragni, il y a quand même eu un petit message trompeur derrière tout ça, parce que en réalité, il faut savoir que Chiara a empoché, avec cette opération commerciale, elle a empoché 1 million d'euros, plutôt pas mal. Et en fait, il y a aucun pourcentage des ventes de ce fameux Pandoro Chiara Ferragni qui a été reversé à l'hôpital. En fait, l'entreprise Baloco a donné 50 000 euros à l'hôpital, mais ça, c'était déjà l'été 2022, donc c'est au moment où ils ont un peu signé le deal avec Chiara, certainement, ou même peut-être qu'elle avait signé avant, bref. Mais donc, globalement, été 2022, Baloco donne 50 000 euros à l'hôpital, et c'est en décembre qu'ils sortent le gâteau, le Pandoro avec Chiara Ferragni, en disant, ben voilà, en achetant cela, vous allez contribuer à une œuvre de charité pour l'hôpital. Et donc, clairement, l'autorité italienne de la concurrence a jugé qu'il y avait eu erreur sur la marchandise, qu'on trompait au final les consommateurs, qu'on les faisait croire que c'était vraiment au final en achetant ce Pandoro qu'un pourcentage irait à l'hôpital, alors qu'en fait que le don avait déjà été fait bien auparavant. C'était 50 000 euros, qu'ils vendent un Pandoro ou 100 000, ça serait resté 50 000 euros et surtout l'argent aurait été donné bien avant que l'opération commerciale ait lieu. Et au final, de tous les Pandoro qui ont été vendus 9 euros pièce, mais il n'y a pas un seul euro qui est allé à l'hôpital. Donc, quand même, grosse opération. Effectivement, c'est assez touchy à ce niveau-là. Ils n'ont absolument jamais dit que c'était les pourcentages de la vente de ce Pandoro qui irait à l'hôpital. Mais il y a quand même, voilà, il y a anguille sous roche. Et donc, quand c'est sorti dans la presse, Chiara Ferragni s'est tout de suite exprimée. Elle avait posté une story, je me souviens très bien, en disant qu'elle ferait appel parce qu'elle trouvait que le montant de l'amende était complètement injustifié et que non, il n'y avait pas eu tromperie au niveau commercial. Et à ce moment-là, je me souviens, dans sa manière de s'exprimer, enfin, c'était juste du texte par écrit, elle était vraiment encore dans la confiance, en mode, ben non, j'ai pas fait d'erreur, c'est bon, on va les réattaquer, et puis voilà. Petit point très important, tout ce que je vous explique ici, c'est toujours passé dans la langue italienne. Toutes les stories postées à ce sujet ont toujours été faites en italien, ça a une importance pour la suite. Et donc voilà, Chiara juste dit « oui, je suis au courant ». Les avocats sont sur le coup et elle pensait certainement que sa vie classique allait reprendre. Pas du tout, parce qu'en Italie, la controverse a monté. Mais énormément, en 48 heures, ça a fait un buzz incroyable. Les médias ne parlaient que de ça. Ça ne parlait que de ça sur X. Décidément, je ne m'y fais pas, j'ai toujours envie de dire Twitter. Bref, la controverse, elle a monté. La polémique, elle a monté. Ça a continué. Chiara Ferragni, pendant 48 heures, elle s'est tue. On n'a pas entendu grand-chose. Elle a rien posté. Et le 18 décembre 2023, elle a posté une vidéo d'excuses de quelques minutes qui est toujours sur son compte Instagram, qui est entièrement, encore une fois, en italien, il n'y a pas de sous-titres en anglais, où elle s'excuse. En globalement, elle dit qu'elle a fait une erreur de communication avec ses équipes, qu'elle en assume la responsabilité. Elle dit qu'elle a fait un don, du coup, pour un petit peu s'excuser d'un million d'euros à l'hôpital et qu'elle va quand même partir en justice parce qu'elle trouve que l'amende qu'on lui demande est quand même injustifiée par rapport au cas. Et elle dit, voilà, on a fait une erreur de communication, on n'a pas voulu vous tromper, etc., etc. Cette vidéo a été extrêmement critiquée pour deux raisons. Raison 1, et ça, personnellement, je trouve que c'est un petit peu stupide parce que dans tous les cas, les gens avaient tellement envie de lui tomber dessus qu'il lui serait tombé dessus. Mais effectivement, sur cette vidéo d'excuses, Chiara Ferragni apparaît un petit peu moins en forme que sur ses autres photos où elle est toujours hyper maquillée, hyper bien coiffée, elle est toujours hyper apprêtée, elle est toujours parfaite, on pourrait dire. Également, elle est habillée beaucoup plus simplement, elle a un simple cardigan gris. Et donc, les gens lui ont dit, mais arrête de te faire passer pour une malheureuse, on sait très bien que dans la vie, pourquoi est-ce que sur cette vidéo-là, tu te présentes moins bien que sur les autres? Bon, entre nous, moi, je suis convaincue que si elle avait fait une vidéo où elle était hyper bien maquillée, hyper bien coiffée, hyper apprêtée, on lui aurait reproché d'être superficielle, donc dans tous les coups, il y aurait une critique. Et la deuxième critique, un petit peu plus profonde, c'est par rapport au fond où les gens lui ont dit « Non mais arrête, ça fait des années que tu fais ce métier, t'es entouré par une équipe de professionnels, t'es entouré d'avocats, ne va pas nous faire croire que c'est une erreur de communication, tu savais très bien, et en gros tu nous as un petit peu arnaqué, donc le côté erreur de communication n'est pas très très bien passé, et en fait cette vidéo qui devait un petit peu éteindre la polémique, elle n'a fait que enfler, et Chiara Ferragni s'est vraiment devenue la bête à abattre en Italie. Et les médias italiens s'en sont donnés à cœur joie. C'était vraiment à qui sera le plus méchant avec elle et les gens ont adoré suivre ça. On raconte, ça je n'ai pas pu le vérifier par moi-même, c'est ce que j'avais vu sur X à l'époque. Elle a une boutique à Milan pour sa marque. Apparemment, la boutique était vide à Milan. En plus, la polémique a continué à enfler parce qu'elle avait fait une opération commerciale similaire avec des œufs de Pâques quelques mois suivants où on a dit également que c'était une sorte d'arnaque. À ce moment-là, en plus, on est juste avant les fêtes. Il y a énormément de personnes sur TikTok qui se sont plaints de commander sur son site et de ne pas recevoir les collections à temps, de ne pas recevoir les commandes à temps avant Noël. Bref, il n'y a plus rien qui allait pour Chiara Ferragni. En quelques jours, ça a monté. Et au final, après sa vidéo d'excuses le 18 décembre 2023, elle n'a plus communiqué. D'ailleurs, son premier post après cette polémique a été fait le 14 janvier 2024. Elle a presque passé un mois sans poster sur Instagram. Et je vous parle de quelqu'un qui poste 3-4 fois par jour depuis les débuts d'Instagram. C'est pour vous montrer, ça peut paraître très futile comme information, mais c'est important. Ce qui est également important à comprendre, c'est le timing pendant lequel s'est passé ce scandale. On est juste avant Noël. Pour les créatrices de contenu, les influenceuses, c'est la période la plus importante. C'est le moment où elles ont le plus de collaborations avec des marques. Et je refuse de croire que Chiara Ferragni n'avait pas des publications sponsorisées prévues plusieurs fois par jour avec différentes marques. Donc on peut être certain que ces contrats ont été annulés. Alors est-ce que c'est elle qui a décidé d'annuler ? Est-ce que c'est les marques qui lui ont dit « ne poste rien, on veut pas être assimilé à ton image » ? Ça, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, on a vraiment eu un calme plat à une période qui est censée être la plus importante. Donc ça permet vraiment de prendre conscience du scandale. Et donc voilà, zéro communication, pas de story. Son mari Fedez également, il s'est pas exprimé pendant une semaine suite au scandale. Au début, il a essayé de la défendre, Chiara. Sachant qu'en plus, j'ai oublié de vous le dire, mais la première ministre italienne s'était exprimée en disant que voilà, les jeunes devaient arrêter de suivre des influenceurs qui mentaient, mais plutôt reprendre des activités un petit peu plus sérieuses. Donc même la première ministre s'en est mêlée. Donc quand je vous dis énorme scandale en Italie, et ensuite Fedez a recommencé à communiquer sur ses propres activités comme sa musique, etc. Pas de traces de Chiara Ferragni, on l'a juste vue dans quelques stories de Fedez à Noël. Et d'habitude, chez les Ferragni, à Noël, c'est toujours très, j'ai presque envie de dire très rococo. On est toujours un petit peu dans le too much au niveau de la démonstration de cadeaux, de sapins, etc. Pour le coup, ils ont tous été assez soft pour le coup. Et on aurait pu croire que la polémique se serait arrêtée entre Noël et Nouvel An pendant les fêtes, mais pas du tout. Moi, je suis certaine que ça a été le sujet de nombreux repas de famille en Italie. Et en fait, il faut savoir que Chiara Ferragni, autant elle était admirée, mais elle était tout autant détestée en Italie. Beaucoup de gens lui reprochaient son rythme de vie. Il y avait peut-être un petit peu de jalousie derrière tout ça. Mais en tout cas, ses haters n'attendaient que cela. Les médias italiens n'attendait que ça, c'est de pouvoir un petit peu taper du sucre sur elle et clairement personne ne s'en est privé. La chute ne s'arrête pas là. Plusieurs marques ont annoncé lui tourner le dos, notamment Pantene a dit qu'ils arrêtaient la collaboration avec elle. On a le fournisseur de ses lunettes de soleil, parce que donc dans sa marque, dans les différents produits, il y a des lunettes de soleil et le fournisseur a dit qu'ils arrêtaient la collaboration. Donc vraiment, tout le monde s'est un petit peu retourné contre elle. Et au final, elle est revenue sur Instagram le 14 janvier, de manière assez discrète. Alors, encore une fois, le timing, vraiment, n'a pas été très bon pour elle. 20 février 2024, c'est le début de la Fashion Week à Milan. C'est la première Fashion Week de l'année. C'est la première Fashion Week depuis que le scandale a éclaté. Et il faut savoir que Chiara Ferragni, qui est originaire de Milan, qui habite à Milan, quand c'est la Fashion Week de Milan, c'est la reine de la Fashion Week. Elle fait tous les défilés, tout le monde veut avoir Chiara, tout le monde veut faire sa photo avec Chiara. Bref, elle n'a pas été invitée. On ne l'a pas vue une seule fois à la Fashion Week de Milan. Et d'ailleurs, elle n'a pas été à la Fashion Week de Paris par après. Alors, est-ce qu'elle n'a pas été invitée ? La rumeur dit qu'elle n'a pas été invitée, que toutes les marques ont retiré leur invitation à cause du scandale. Voilà, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est elle qui a décidé de plutôt rester chez elle dans l'ombre ? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais le fait que Chiara Ferragni manque la Fashion Week de Milan, encore une fois, ça montre qu'il y a un énorme problème. Pour un petit peu parler de tous ces soucis, elle a été invitée dans un gros talk show italien le dimanche 3 mars. Pour le coup, l'interview a un petit peu déçu les gens parce qu'elle s'est pas vraiment exprimée. Oui, elle a dit que c'était super compliqué en ce moment, qu'elle avait vraiment vécu une période, mais forcément que c'était hyper compliqué, la vague de haine qu'elle s'est prise, qu'elle était pas prête pour ça. Encore une fois, elle ne comprend pas vraiment ce qu'on lui reproche. Donc voilà, là-dessus, rien de très intéressant. À part par rapport à sa vie privée, mais ça, je vais y revenir. Et je termine avec la dernière info. Le 29 mars, Tod's a annoncé qu'elle ne faisait plus partie du conseil d'administration. Ils l'ont viré du board. Alors qu'au début, ils l'avaient plutôt défendu. Ils avaient dit qu'ils avaient été très satisfaits du travail qu'elle faisait avec eux. Mais elle n'est pas reconduite. Donc voilà, sacrée affaire, ce qui a été appelé dans la presse italienne le Pandora Gate. Et c'est vrai que c'est assez dingue quand on voit l'empire qu'elle avait construit, parce que ça fait des années qu'elle fait ce métier, elle fait du contenu sur le web depuis 2009, ça faisait presque 15 ans, et il n'y avait jamais eu de scandale réellement avec Chiara, mais là pour le coup il y en a un, il n'a pas loupé, et tout ça vraiment pour une simple brioche, pour un gâteau de Noël, au final c'est assez dingue. Alors, je vous ai dit, on va faire un petit point sur sa vie privée, parce qu'en fait, dès mi-janvier, il y a eu des rumeurs de séparation avec son mari Fedez. D'ailleurs, il y a même certaines personnes qui ont dit que c'était une stratégie de communication. Certaines personnes, enfin surtout les médias italiens, ont dit que le fait que ça jase un petit peu au niveau de la séparation, c'était pour un petit peu retirer de l'esprit de l'attention le problème judiciaire et que les gens gossipent un petit peu sur leur couple au lieu de parler des problèmes judiciaires. Lors du fameux talk show où elle était interviewée le dimanche 3 mars, elle a expliqué que non, c'était absolument pas une stratégie, qu'effectivement ils avaient une période compliquée, et entre-temps, ça a été un petit peu officialisé que Fedez a quitté le domicile conjugal. D'ailleurs, il s'est pas privé de montrer en story des photos de sa nouvelle résidence, appartement, maison, je ne sais pas. Mais donc, globalement, le couple est séparé. Il semblerait que le couple était en difficulté depuis plusieurs mois, mais ce seraient les déboires judiciaires de Chiara qui auraient été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, comme je vous ai dit, Chiara, donc, elle a repris un petit peu son activité de contenu depuis le 14 janvier. Intéressant cependant, j'ai quand même analysé, il n'y a pas eu depuis le 14 janvier un seul post sponsorisé avec une seule marque. Le seul post qui est sponsorisé, c'est pour sa propre marque, quand elle fait la communication de sa propre marque. Donc globalement, pas de sponsor de marque extérieure. Bon, je vous rassure, Chiara n'est pas en train de déprimer dans son canapé devant la télé. Elle est partie en voyage à New York. Elle est partie en voyage, actuellement, elle est en vacances à Dubaï. D'ailleurs, elle a embarqué ses sœurs avec elle. Et je n'ai pas noté de baisse d'engagement. Et ça, c'est un point important. Et on va y venir pour répondre à la question, est-ce que c'est la fin de son règne ? Parce qu'en réalité, on pourrait imaginer qu'avec un tel scandale et tout le retentissement que ça a eu en Italie, on pourrait croire qu'elle aurait perdu des millions et des millions de followers. Pas du tout. Elle a même pas perdu un demi-million de followers dans sa masse de followers. Et également, il n'y a pas de baisse d'engagement dans ses posts. J'ai vraiment comparé ses différentes publications avant et après le scandale, on est vraiment sur le même type de statistiques. Alors, on va répondre à la question du coup, est-ce que c'est la fin de son règne ? Eh ben, je ne pense pas. Je pense que c'est la fin de son règne en Italie. Et je vous ai dit, n'oubliez pas que toutes les communications se sont faites en italien. Et là, Chiara Ferragni, je ne sais pas si ça a été fait exprès ou si ça a été voilà, le hasard qui a fait cela, mais comme le scandale a éclaté en Italie, elle a toujours communiqué dessus en italien. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit ses publications passer, qui fait pas vraiment de recherche, ben, il va pas comprendre en fait ce qui se passe. Moi, c'est vraiment parce que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai passé énormément de temps sur X à lire les tweets des différentes personnes. Heureusement, il y a moyen de traduire les tweets parce que tout était en italien. Pareil pour la presse. On en a très peu parlé dans la presse internationale, que ce soit la presse anglaise, la presse française. Vraiment, toutes mes sources viennent principalement de médias italiens. Merci encore une fois, Google Traduction. Donc, globalement, le scandale a été énorme, mais uniquement en Italie. Et elle n'en a absolument pas parlé au niveau international. Et je suis convaincue que la majorité de ses followers n'a pas vu et n'a pas compris ce qui se passait. C'est vraiment resté en Italie. C'est un scandale qui ne s'est au final pas exporté. Alors certes, on l'a vu, Todd l'a remercié par rapport à son activité de membre du board. Après, c'est normal, les grosses marques forcément sont au courant, bien sûr, et elles vont faire attention à ne pas associer spécialement leur image avec Chiara dans les prochains mois. Mais au niveau du public, la majorité de ses followers n'est pas au courant. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, dans mes propres stories, j'avais posté il y a quelques jours une story demandant « Voilà, est-ce que ça vous intéresse le cas Chiara Ferragni ?» Et vous avez été beaucoup à me dire « Qu'est-ce qui se passe ? J'étais peu au courant, alors que vous la suivez. » Donc, il y a vraiment un scandale qui a éclaté en Italie, mais qui n'a pas grandi au niveau international. Et c'est certainement pour ça qu'actuellement, elle est plus à l'étranger qu'en Italie. On le voit, elle est partie à New York, elle est partie à Dubaï. Et là, ce n'est que mon avis. Mais je pense que si elle n'avait pas d'enfant, elle serait déjà en train de réfléchir à s'expatrier. Avant de rencontrer Fedez, elle vivait en Californie. Elle est rentrée en Italie un petit peu pour lui. Parce que lui, toute sa carrière est en Italie. Il parle même pas anglais. Mais je suis convaincue que si elle n'avait pas d'enfant, elle serait déjà en train de réfléchir à partir ailleurs pour un petit peu se faire oublier. Oublier en Italie et continuer sa carrière sur des terres où il n'y a pas eu le scandale. Bon, c'est peut-être ce qu'elle va faire, hein. Peut-être qu'au final, elle est en train de chercher son prochain lieu de vie, mais ça m'étonnerait. Alors, concrètement, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin pour elle ? Ben non, de toute façon, Chiara Ferragni, elle a quand même construit quelque chose de très grand et ça ne s'est pas effondré non plus en un mois. Déjà, en plus de son activité d'influence, elle a absolument tous ses différents business. Il y a le média Te Blanc Salade, il y a l'agence d'influence et puis il y a ses différentes marques. Alors certes, les différentes marques sont à son nom, c'est vraiment le visage de sa marque, mais comme je l'ai dit, son personal branding, sa marque personnelle, certes, son image est complètement défaite en Italie, mais dans le reste du monde, beaucoup moins. Alors c'est impossible de connaître les chiffres de vente de la marque Chiara Ferragni, mais il continue de sortir des nouveautés. Bref, on n'est pas sur une marque qui est en train de s'arrêter, qui a l'air d'être au bord de la liquidation, loin de là. Est-ce qu'ils font moins de ventes en Italie ? Certainement. Est-ce qu'ils font moins de ventes au niveau global, au niveau mondial ? Ben ça reste à prouver. Et honnêtement, je ne pense pas, parce que quand je vois à quel point on en a peu parlé sur la sphère internationale, je ne pense pas que sa marque soit si entachée que ça au niveau international. Donc clairement, si elle doit revenir, ce sera sur la sphère internationale. Clairement, je crois qu'on va pas du tout entendre parler d'elle en Italie les prochains mois, parce que les gens ne peuvent plus la voir. Et c'est pas la première célébrité, en fait, qui connaît un grand scandale, et au final, les scandales, ça passe. Moi, je me souviens, par exemple, du scandale Kate Moss, quand il y a des photos d'elle qui étaient sorties en train de prendre des substances illicites, voilà, pour ne pas dire les mots qu'on n'a pas le droit de dire dans les épisodes de podcast. Mais pareil, elle avait tout perdu à l'époque, toutes ses collaborations avec toutes les marques. On l'a plus vue sur aucun podium pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais au final, elle est revenue. Et maintenant, Kate Moss, on parle d'elle comme étant une mannequin, pas comme étant quelqu'un où il y a eu un scandale pour substances illicites. Donc, Chiara Ferragni, elle va d'office revenir. Elle est intelligente. intelligente. Là, elle fait profil bas en Italie. On va la voir deux fils beaucoup plus sur la sphère internationale. Elle va certainement avoir beaucoup moins de collaborations à venir les prochains mois parce que les marques, à mon avis, ont un petit peu peur de s'associer avec elle au vu du scandale. Mais clairement, sur le long terme, son empire ne s'est pas effondré. Il y a qu'à voir le peu de followers qu'elle a perdu. Elle n'a pas perdu d'engagement sur ses publications. Et donc, il y a bien un jour une marque qui va dire « Allez, on collabore avec Chiara ». Et donc, oui, elle va certainement revenir, en tout cas sur la sphère internationale. Par rapport à sa réputation en Italie, je vous avais dit, mi-janvier, quand il y a eu des rumeurs de séparation avec son mari, beaucoup de gens disaient que c'est une stratégie de communication et que s'ils se séparaient réellement, le fait d'avoir Chiara en mère célibataire, que ça allait redorer un petit peu presque son image en Italie, enfin que les gens allaient avoir un petit peu pitié d'elle. Alors je ne pense pas que le divorce soit une stratégie de communication, il y a une vraie crise dans le couple, mais effectivement là on le voit, ils vont de plus en plus vers le divorce. Enfin, de toute façon c'est un couple où il y a un patrimoine tellement énorme que le divorce ne va pas être prononcé hyper rapidement. Il y a beaucoup trop de choses à faire, à régler avec les avocats, mais globalement là le couple est séparé. Et voilà, il y a un petit peu certains médias qui disaient qu'au final ça allait être bénéfique pour elle au niveau réputation, parce que en Italie certainement que les femmes allaient avoir un petit peu, je vais pas dire pitié d'elle, mais allaient se dire allez la pauvre, elle est toute seule avec ça, elle a perdu son mariage est détruit, etc. Donc voilà, à suivre. Mais donc globalement, réputation de Chiara hyper ternie en Italie, pas du tout au niveau international. Et ça, c'est déjà la première leçon, je trouve, qui est hyper intéressante, c'est qu'elle a réussi à maintenir ça dans son pays. Elle a réussi à maintenir ça en Italie, mais ça n'a pas vraiment dépassé les frontières. Alors, je vous avais dit, je vais vous donner mon avis sur cette affaire. Au final, est-ce qu'elle a voulu arnaquer, est-ce qu'elle a voulu empocher de l'argent un petit peu dans le dos du public sous couvert d'une opération de charité. Écoutez, moi, je ne pense pas sincèrement. Elle le savait que si un scandale comme ça éclatait, elle avait beaucoup trop à perdre en termes de réputation. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé. Donc, je pense sincèrement, quand elle dit qu'il y a une erreur de communication, oui. Alors, peut-être pas erreur de communication. Moi, ce que je pense, c'est que Chiara, elle a fait tellement de choses différentes, à gauche, à droite, dans tous les sens. Elle a beau être très, très bien entourée, ça m'étonnerait pas, en fait, que cette opération ait été un petit peu créée à l'arrache, qu'ils ont pas vraiment fait attention et que, voilà, c'est passé comme ça et au final, ils ont été rattrapés. Ce n'est que mon avis. Hein, je dis pas que ça s'est passé comme ça. Peut-être que Chiara, effectivement, avait créé cette opération en se disant « Cool, je vais m'en mettre plein les poches et tant pis pour les gosses qui sont malades. » Mais ça m'étonnerait réellement, elle avait tellement à perdre là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui a été fait un petit peu à l'arrache, globalement, et ça vient avec la conclusion de cet épisode. Au final, qu'est-ce que nous, on peut en tirer? Alors, c'est un petit peu compliqué, parce que bien sûr, se comparer, nous, qui avons 5000, 10 000 followers sur Instagram, se comparer avec la Queen Chiara, c'est un petit peu compliqué, mais globalement, il y a quand même deux choses que j'ai envie de retenir de tout ça. Tout d'abord, la première chose, c'est que quand on a des problèmes, on construit en général nos propres problèmes. Et on le voit, Chiara Ferragni, elle a construit un empire énorme et cet empire s'est retourné contre elle. Et qu'est-ce qui a fait cela? Eh bien, c'est la course au toujours plus. En fait, elle a fait tellement de choses, c'est parti tellement dans tous les sens et on le voit, 2022, 2023, des œuvres de charité, aller présenter Sanremo et encore faire ceci, encore faire cela, encore faire cela. Alors, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui a du succès de vouloir toujours en faire encore plus. Et Chiara Ferragni, pendant des années, je l'ai citée comme étant une des entrepreneurs / créatrices de contenu qui m'inspirait le plus, et ça reste une femme qui m'inspire énormément par rapport à tout ce qu'elle a créé. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était un petit peu too much. Et je vous ai dit, moi, je me souviens très bien de quand elle a sorti ce fameux gâteau, ce fameux Pandoro. Je me souviens, ma meilleure amie habite en Italie, donc parfois elle suit un petit peu Chiara Ferragni d'une manière différente parce qu'elle entend les critiques, etc., dans les médias. Et je me souviens que quand c'est sorti, je lui avais transféré une de ses stories et j'avais dit, oui, quoi, et maintenant elle nous fait un Pandoro, mais quoi, bientôt c'est le dentifrice. Effectivement, elle a fait des collaborations pour du dentifrice, c'est pas sorti au niveau international, c'est ma meilleure amie qui m'avait montré ça dans un supermarché. Bref, globalement, elle a voulu mettre un petit peu son image partout. Certainement, elle a voulu gagner un maximum d'argent, on peut pas lui reprocher, mais par contre, il y a certainement eu trop d'un coup, et c'est certainement ça qui a causé au final ce scandale, c'est de vouloir en faire trop, toujours plus, cette course au toujours plus se montrer, toujours plus d'argent. Et donc, au bout d'un moment, ça a pété. Au bout d'un moment, il y a eu un bug. Encore une fois, je le dis, je ne pense pas que cette erreur au niveau de ce qui était écrit par rapport à l'offre de charité, je ne pense pas vraiment que ça a été fait exprès. Je pense pas que son but était de s'en mettre plein les poches et faire croire qu'il y avait de l'argent pour un hôpital. Je crois qu'il y a vraiment eu un bug, en fait, en interne. Et on le voit, c'est ça qui a fait que ça s'est retourné contre elle. Et là, tout ce qui est autorité italienne, concurrence, commerce, etc., est en train de fouiller dans ses archives, et ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve certaines choses, parce que ça y est, ils ont un petit peu ouvert la boîte de Pandore, et ils vont certainement aller trouver d'autres choses qui ont été mal faites. Est-ce que ça a été fait de manière consciente ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il y a eu des erreurs avec cette course à toujours vouloir faire plus, plus, plus. Et le côté un petit peu positif, la leçon positive qu'on peut peut-être entendre. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui créent du contenu sur le web et qui ont peur du bad buzz. Vous savez, on a souvent peur, même si on a très peu de personnes qui nous suivent. On peut avoir peur ne serait-ce que d'une faute d'orthographe ou on peut avoir peur de dire une chose qui ne va pas passer. Mais n'oubliez pas que dans tous les cas, quand il y a comme ça un bad buzz, que ce soit un tout petit bad buzz à notre échelle ou un énorme scandale comme ici Chiara Ferragni, n'oubliez pas qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas au courant. Ça n'existe pas le bad buzz où la terre entière est au courant. Et on le voit ici, Chiara Ferragni, il y a au final, par rapport à son nombre de followers, il y a très peu de personnes qui sont au courant. Donc ça, c'est un petit peu le côté un petit peu plus positif. Donc ne vous inquiétez pas, au final, tout finit par s'oublier. Et encore une fois, tout le monde ne va pas le voir et tout ne s'écroule pas du jour au lendemain. Certes, là, je compare un petit peu ce qui est incomparable entre guillemets, mais moi, pour avoir eu parfois des mini bad buzz sur le web, vous en avez parlé dans un épisode précédent, les moments les plus compliqués que j'ai eu. Ben, en fait, on a souvent l'impression que tout le monde est au courant, que tout Instagram est au courant, alors qu'en fait, pas du tout. Donc vraiment, relax par rapport à ça. Donc voilà pour le scandale Chiara Ferragni. J'espère que vous avez aimé cet épisode un petit peu plus différent, un petit peu plus gossip entre guillemets, mais en même temps je pense qu'il est vraiment presque un cas d'étude par rapport au nouveau métier qui a sur le web aujourd'hui. C'est vrai que moi si on m'avait dit début décembre 2023 qu'il allait se passer tout ça pour Chiara, je n'y aurais pas cru tellement elle était à la tête de son empire et on pensait que jamais elle ne s'arrêterait, mais au final on le voit. Personne n'est insubmersible et bien sûr je ne manquerai pas de suivre la suite de cette affaire et je vous tiendrai updaté. Globalement en ce moment il y a beaucoup moins d'informations, la presse commence à se calmer petit à petit, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup moins, quand je dis la presse c'est bien sûr la presse italienne, voilà, on parle beaucoup moins du scandale judiciaire, là ils sont dans l'attente de l'annonce officielle du divorce entre Chiara Ferragni et Fedez et on verra par la suite ce qui se passe au niveau judiciaire. Mais je pense que le plus gros de cette affaire est passé et je ne manquerai pas de faire un épisode dans les prochains mois pour un petit peu vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au niveau communication, comment est-ce qu'elle est revenue par rapport au scandale, parce que je pense que c'est très intéressant à analyser. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire, vraiment ça aide à fond le podcast. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, on fera un épisode un petit peu plus classique, business. Voilà, j'ai envie d'un petit peu mixer les différentes thématiques pour plaire à tout le monde et pour également varier les plaisirs. Merci de votre écoute.